Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le gouvernement reste déterminé à rendre effectif les programmes du président Félix Tshisekedi, tel qu'il a lui-même indiqué lors de son discours d'investiture, avec une fixation sur la diversification de l'économie. Déclaration du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, l'a dit à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique tenue hier mercredi, ici à Kinshasa. La province du Maniema, plus d'une semaine depuis que le pont Louku à 2 km de Kayembe, chef-lieu du secteur de Bébé Salamabila, a cédé. Les conséquences se font enregistrer. Difficile pour les enfants de se rendre à l'école, de même que les prix des produits vivriers sont revus à la hausse. L'invité de ce journal, Erigène Cholet, l'un des membres du directoire de la plateforme Parvenir, qui rassemble des jeunes des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Il parle des mécanismes à mettre en place pour réclamer les renouvellements de la classe politique qui, selon ces jeunes, n'a plus rien à proposer au peuple congolais. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. Le programme du deuxième quinquennat du chef de l'État centré sur la diversification de l'économie et l'évolution des paramètres macroéconomiques sur le plan national et international. Voilà les deux points essentiels au centre de la réunion du comité de conjoncture économique que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé hier mercredi ici à Kinshasa. Le gouvernement reste déterminé à rendre effectif le programme du président Félix Tshisekedi tel qu'il a lui-même indiqué lors de son discours d'investiture avec une fixation sur la diversification de l'économie nationale. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui l'a dit dans cet extrait du compte-rendu choisi par Daniel Tambizoni.
Produire, ça implique la construction des infrastructures, des routes de desserte agricole, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie et tout ceci créer de l'emploi et créer des richesses et donc de l'espoir pour le peuple congolais. Ce qui fait que pour nous, derrière le Premier ministre Samalou Kondé, nous voulons absolument que les 6 points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade des martyrs, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie, et j'en passe. Tout cela, ça ne doit pas demeurer un slogan. Le Premier ministre a été très clair. À la prochaine réunion du comité de conjoncture, c'est-à-dire la semaine prochaine, Madame la ministre d'État du Plan et le ministre du Commerce extérieur, qui était porteur de ce projet au niveau de l'ECOFIN, devront présenter un tableau de bord et une fiche, une feuille de route pour réaliser ce projet petit à petit.
Au Nord Kivu, la banque Ujama des produits agricoles signe de nouveaux contrats de partenariat de triples engagements avec les coopératives agricoles et les agriculteurs de Bweremana dans les territoires de Masisi. La banque des produits agricoles est une structure mise en place pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et leur redonner espoir en leur assurant le marché de leurs produits. L'idée de ce partenariat est de renforcer ses capacités d'approvisionnement en produits agricoles, mais surtout de rassurer les paysans de l'écoulement de leurs produits. C'est comme l'explique ici Gédéon Mitoere, entrepreneur et directeur gérant de Ujama Holding. Il est au micro de Denis Lukeso.
Nous avions signé avec eux beaucoup de contrats. Ils étaient au nombre de 100 coopérateurs. Une coopérative comme Komatu qui comptait déjà 1500 agriculteurs, donc pouvait déjà estimer le nombre. On a signé ce contrat de triple engagement dans le sens de garantir aux agriculteurs ou aux coopérateurs l'écoulement de leurs produits, à leur instruisant aussi comment préparer la nouvelle saison culturelle qui va commencer bientôt après cette récolte. Parce qu'on a anticipé ces collaborations vu que nous sommes vraiment presque dans une saison de récolte et que beaucoup d'agriculteurs ont peur, en fait, ils n'ont pas d'assurance pour le commande de leurs produits. On est parti pour les soulager et leur montrer finalement que nous pouvons maintenant les aider à écouler les produits à un prix du marché sans pour autant que ces gens soient frustrés ou soient écrasés par les acheteurs ambulants.
Au sud Kivu, environ 90 participants composés des chefs de chefferie, des administrateurs de territoire, de la société civile et autres sont en atelier à Bukavu depuis hier mercredi afin d'installer la commission consultative de règlement des conflits coutumiers CCRCC provinciale. Deux rôles majeurs sont assignés à cette commission, à savoir traiter les recours de sentences contestés par les CCRCC des secteurs et chefferies d'une part et traiter les conflits qui affectent les leaders des chefferies d'autre part. Cela dans le but de régler les conflits coutumiers auxquels sont confrontées les communautés. L'activité est financée par la MONUSCO et le PNUD. Rachel Kessembangou a pris part à l'ouverture de cet atelier. Voici son reportage.
Les conflits de pouvoir coutumiers sont à la base de la recrudescence et la persistance de l'insécurité sous toutes ses formes dans l'interland de notre province et ont freiné significativement son essor économique et social.
Le gouvernement provincial dit porter un intérêt particulier à cette activité car ces conflits coutumiers ont longtemps plombé le développement du Sud Kivu. Du 24 au 26 janvier, ils seront réunis pour renforcer leurs capacités en matière de gestion des conflits coutumiers, élire et installer les membres de la CCRCC provinciale du Sud Kivu, enfin désigner le représentant du Sud Kivu au sein de la commission consultative de règlement des conflits coutumiers nationales, ce qui rassure quant à la gestion des conflits coutumiers. Marc Malago, vice-gouverneur du Sud Kivu.
L'organisation ces jours de la CCRCC provinciale constitue pour le gouvernement du Sud Kivu un grand ouf de soulagement tant qu'il est appelé à recevoir toutes les réclamations pour une solution finale des stabilisations de nos pouvoirs coutumiers à la base.
Cette activité, organisée par le gouvernement provincial, bénéficie de l'appui technique et financier de la MONUSCO et du PNUD. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Nord Kivu, reprise des affrontements ce jeudi dans la matinée dans la cité de Mueso, en territoire de Masisi, après une brève accalmie observée ce matin. Des affrontements violents à l'arme lourde ont opposé toute la journée d'hier mercredi les rebelles du M23 et les groupes armés locaux et les FARDC en pleine cité. La situation humanitaire s'est dégradée considérablement dans la région. Des détails avec Sifa Maguru.
Ces affrontements à l'arme lourde et légère ont provoqué des blessés hier mercredi parmi la population civile. Nos sources signalent 5 personnes blessées, dont un enfant et 2 femmes. Un grand nombre d'habitants est concentré à l'hôpital général de Mueso sans assistance. D'autres ont trouvé refuge à la paroisse et d'autres ont pris la direction d'Empati et Busumba dans la même région. Nos sources affirment que les rebelles se trouvent à Nyenyeri, non loin du centre des activités, alors que les FARDC et les groupes armés sont à Bukama, au marché de Mueso, 2 km du centre. Les deux belligérants se tirent dessus et exposent la population à la puissance des feux. Cette situation ne permet pas aux humanitaires de rester dans la région pour assister la population, excepté Médecins sans frontières qui est resté dans la zone et continue à appuyer l'hôpital général de Mueso, témoignent nos sources. Rappelons que c'est depuis le début de la semaine que les affrontements ont repris dans la zone avant d'atteindre la cité de Mueso. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
En bref, processus électoral au Sud Kivu. Des partisans des candidats malheureux à la députation provinciale sont descendus hier mercredi dans les rues de la ville d'Ouvira. Ils disent contester l'échec de leur candidat favori de la plateforme 2ATD, allié de l'UDPS Tshisekedi. Ils accusent la CENI et le gouvernement congolais d'avoir supprimé le nom de leur candidat sur la liste de vainqueurs et de l'avoir remplacé par un autre candidat de la même liste pour des raisons politiques. Ces manifestants ont clôturé leur marche par le dépôt de mémorandum à la mairie d'Ouvira. Signalons qu'il s'agit d'un deuxième cas de protestation organisée contre la CENI dans la ville d'Ouvira en l'espace de 24 heures après la publication des résultats provisoires de la provinciale. Mardi dernier, ce sont les partisans de notre candidat malheureux de Ensemble pour la République qui ont été dispersés dans une manifestation sur la voie publique. Dans la province du Maniema, plus d'une semaine depuis que le pont Lououkou se trouvant à 2 km de Kayembe, chef du secteur de Bébé Salamabila, à 27 km du centre, a cédé. Les conséquences se font enregistrer. Selon nos sources, difficile pour les enfants de se rendre à l'école. De même que les prix des produits vivriers sont revus à la hausse. Maître Saïdi Vumba, activiste des droits de l'homme et notable de ce coin, rappelle encore une fois le gouvernement provincial la construction de ce pont qui est d'importance capitale. Il a été joint par Florence Kizalunga.
C'est depuis plus d'une semaine que nous avons alerté l'opinion sur la situation de ce pont Luhuku. Nous sommes pendant la période pluvieuse où les eaux inondent chaque fois. Et cette rivière se trouve entre les deux villages, les villages Kalimango et Kayembe. Donc les enfants même de Kalimango pour traverser, aller à l'école, ils ont du mal à traverser. Même des piétons, même les motards. Et les conséquences encore, c'est quoi? C'est les gros véhicules qui viennent d'ici qui ne vont pas traverser. Même si on envisageait cette solution provisoire que les chefs de secteur et sa population sont en train de se battre pour en avoir. Allez-y comprendre, madame. Non seulement la hausse des prix des produits vivriers dans les marchés de Salamabila, mais il faut voir, même à Ouamaza, les commerçants qui attendaient impatiemment leurs marchandises, les véhicules traînent de l'autre côté, ils ne savent pas comment traverser. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de rappeler encore le gouvernement provincial de pouvoir venir en aide au chef de secteur qui est limité en termes de moyens pour la reconstruction de ces ponts. Les ponts doivent être reconstruits dans un bref délai, étant donné que ça se trouve dans un axe à importance capitale sur le plan économique entre les deux provinces, la province du Maniema et sa province sœur, la province du Sud Kivu.
Sud Kivu, encore une fois, clôture ce jeudi de l'atelier de sensibilisation sur la désinformation à la Monisco Bukavu, activité organisée par le Bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la Monisco, avec comme objectif principal de sensibiliser les femmes, les jeunes, les journalistes et les membres de la société civile pour renforcer leur compréhension des enjeux de la désinformation et pour les outiller contre la désinformation avec des moyens accessibles. Encore une fois, Rachel Kessembangou, reportage.
La MONUSCO effectuant un désengagement de ses contingents du Sud Kivu d'ici le 30 avril 2024, il est essentiel que le processus soit bien compris et communiqué de sorte que la population ait accès à la bonne information et diffuse les bons messages. Esther Mubalama de la dynamique Femmes et Enfants participante à cet atelier. Elle revient sur l'utilité de cette rencontre.
Cette formation, c'était sur la lutte contre la désinformation, surtout sur la MONUSCO. Parce que nous avons vu pas mal d'informations sur qui il est sur les réseaux sociaux, sur ce que la MONUSCO a fait, ce que la MONUSCO n'a pas fait et qu'elle devrait faire. Et la plupart des fois, on ne savait pas distinguer le vrai du faux. Mais cette formation ici vient de me montrer qu'il y a deux messages qu'on partageait sans les savoir, qui étaient des mauvaises informations, parce que tout simplement, on n'avait pas cet aspect-là de vérification, et les conséquences de ces messages ont de l'impact sur notre communauté.
À l'issue de cette formation, les participants ont été outillés avec de l'information et des outils leur permettant de détecter le vrai du faux, surtout de se questionner avant de partager une information. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Célébration hier, mercredi 24 janvier, de la Journée internationale de l'éducation. Placée sous le thème « Apprendre pour une paix durable », cette journée a été marquée à Lubumbashi notamment par des activités organisées par l'UNICEF en collaboration avec l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que la division provinciale du genre « Famille et enfants ». Objectif, sensibiliser notamment les enfants sur les notions de la paix et les amener aussi à impacter leur milieu de vie pour un monde meilleur. Les détails avec Jean Grandou.
Cette journée était célébrée au complexe scolaire Kachobwe situé dans la commune de Lubumbashi. Pour le responsable de cette école, l'éducation n'est pas seulement l'acquisition des connaissances, elle doit être également considérée comme un levier pour inculquer les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de compréhension entre individus et communautés. Et l'occasion était toute donnée pour sensibiliser les élèves sur la notion de la paix dans les milieux scolaires. D'où cette interrogation que l'un de leurs a adressée à l'inspecteur provincial principal.
Comment l'éducation peut-elle jouer un rôle clé dans la promotion de la paix durable au sein de l'école?
Pour Nicolas Nyangé, les deux notions sont intimement liées.
L'école est un espace où nous inférons des compétences à l'enfant pour lui permettre de véhiculer la paix et de devenir effectivement un artisan de la paix.
Présente à cette manifestation, la chef de bureau par intérim de l'UNICEF Lubumbashi a exhorté les élèves à intérioriser et à appliquer cette notion dans leur vécu quotidien. Consolata Boendoa.
Que ce soit ici à l'école, que ce soit dans vos communautés, que ce soit dans votre environnement de vie, partout où vous allez, chers enfants, soyez les personnes qui amènent la paix, qui donnent les messages de la paix, qui consolident la paix. Il faut que vous puissiez savoir que votre avenir est basé sur la paix.
Bashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, le gouvernement a décidé d'accorder aux soldats une série de primes. Toutes les forces de défense et de sécurité FDS obtiendront une une indemnité du coût de la liberté, l'appellation désignant le putsch du 30 août. Il est prévu aussi une prime à la performance pour les forces postées aux frontières. Enfin, une prime de valorisation des diplômes militaires est instaurée. Trois décisions très commentées dans le pays. Et puis, une délégation de la CEDEAO est attendue au Niger qui résiste aux sanctions économiques. Mises en place après les coups d'État du 26 juillet, les sanctions ont touché de manière importante le budget et l'économie de l'État. Cependant, ce pays, qui a l'un des plus faibles indices de développement humain, se montre plus résistant qu'attendu.
L'invité.
L'invité de ce journal, Ergen Solé, l'un des membres du directoire de la plateforme Parvenir, qui rassemble des jeunes des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité. Il parle des mécanismes à mettre en place pour réclamer le renouvellement de la classe politique, qui, selon ces jeunes, n'a plus rien à proposer au peuple congolais. Ergen Solé répond aux questions de Blaise Ndani Kambala.
Monsieur Ergen Solé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, nous avons vécu aujourd'hui le lancement de votre plateforme appelée Parvenir. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette plateforme Parvenir, vous, jeunes de tendances confondues, aussi bien de la majorité que de l'opposition, mais vous vous êtes rassemblés pour créer Parvenir. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Parvenir?
Comme vous le savez, le constat est amer. Lorsqu'on regarde la République démocratique du Congo, aux terres sacrées de Lumumba, de Kimpavita, de tous ces grands icônes qui ont combattu pour la refondation de ces pays. Et aujourd'hui, on voit leur combat tourner en néant et la République continue à faire des surplaces. Il n'y a pas de développement, il y a carence de tout. On est jeune, conscient, soucié du développement de notre pays. On ne pouvait que prendre la décision de s'élever et de dire qu'il faut changer les choses. Mais comment il faut mettre un cadre au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos formations politiques, au-delà de nos appartenances, mettre un cadre sans couleur qui va discuter et qui va militer pour des questions très importantes de la République, qui ne sera pas colorée d'une telle formation politique ou d'un tel leader politique, mais qui va rester pour parler Congo. Donc c'est ça, c'est dit à des constats amers de ce que la République connaît jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Oui, mais quel mécanisme allez-vous mettre en place pour essayer de porter loin votre voix, aussi bien dans la classe politique de la majorité que de l'opposition?
Il y a des séries de consultations que nous allons mettre en place. Nous allons consulter des couches nécessaires politiques, société civile, ecclésiastique. Il y a aussi la RI. On va des fois peut-être faire parler de la RI. Il y a la formation des citoyens, l'identification des partis politiques qui ne respectent pas leur mission essentielle confiée telle que la loi le dit. Nous allons mener ces démarches, en tout cas, à tout un schéma bien établi pour, n'est-ce pas, y arriver au-delà de nos objectifs.
Monsieur Rigel, Michel, dites-nous, nous avons connu beaucoup de mouvements comme ça en République démocratique du Congo, mais soit ça s'est mu en parti politique, soit encore ça s'arrête en mi-chemin. Dites-nous, monsieur Michel, jusqu'où comptez-vous aller?
Je ne pense pas que Parvenir deviendra un jour parti politique. Je ne pense pas. On est déjà membre d'un parti politique parce que la majorité de nous, membres cofondateurs de ces réseaux, jusqu'où nous comptons aller, c'est jusqu'à la réalisation de nos objectifs. Nous nous sommes assignés des objectifs, nous militons pour sa réalisation. Les jours où nous allons remarquer que les objectifs de Parvenir est atteint, peut-être on sera après nous, après 20 ans, après 50 ans, parce que le combat sera long, le combat sera difficile, mais nous on a osé, on a laissé une marque. Que nous demandons aujourd'hui à la jeunesse de suivre les chemins et de porter cette charge, de continuer le combat. Le Mumba avait initié le combat de l'indépendance et aujourd'hui nous continuons à militer peut-être pour l'indépendance économique de la RDC et donc voilà.
Je suis tenté de vous poser la question, qui est derrière vous?
Qui est derrière nous? Il y a le peuple congolais, il y a notre volonté politique de voir le Congo que nous aimons beaucoup, de voir notre héritage sacré qui nous a été confié par Kimpavita, Lumumba et tous ces pères fondateurs de la République démocratique du Congo, et voir ce Congo qui aujourd'hui est pris en otage par un groupe d'individus. Nous sommes animés par cette volonté de voir le Congo changer. Qui est derrière nous, il y a la volonté et il y a le peuple congolais.
Monsieur Rigène Cholet, merci beaucoup.
Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie en tout cas.
C'était notre invité Rigen Solé, un des membres du directoire de la plateforme Parvenir qui s'entretenait avec Blaise Ndani Kambala. Ce journal est à présent terminé. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.